journal des sciences.
Premier sujet de ce journal des sciences, une étude de Paris dans The Journal of Physiology sur l'embryogenèse qui a mis en lumière les fonctionnements de l'intestin pendant la digestion.
On entend beaucoup dire que l'intestin est notre deuxième cerveau. En effet, nos neurones ne sont pas uniquement présents dans le cerveau, dans la moelle épinière. Le système digestif est recouvert d'environ 100 millions de neurones. Ce n'est que très récemment qu'on s'intéresse au système neuronal entérique. On sait qu'il gère les mouvements liés à la digestion, mais on ne comprend pas bien comment il fonctionne et surtout encore moins comment il se met en place lors de l'embryogenèse. Pour cette étude, les chercheurs ont travaillé sur des embryons de poulet. Ils ont ouvert les œufs, disséqué les intestins, puis les ont placés dans des bains physiologiques pour observer leurs mouvements selon les stades de développement. L'étude a montré deux phases distinctes dans le développement du système digestif. Alain Chédotal est neurobiologiste du développement et directeur de recherche à l'INSERM.
Initialement, il n'y a pas de neurones dans l'intestin. Ils naissent pas au niveau de l'intestin, ils naissent pas très loin du cerveau. Et ils vont se mettre à migrer le long de l'intestin depuis le haut de l'intestin et envahir petit à petit, se développer et coloniser l'ensemble de l'intestin du haut vers le bas. Et en fait, ce qui est particulier dans l'intestin, c'est qu'il y a plusieurs couches, et ça c'est connu, il y a des muscles qui sont orientés dans différentes directions. Donc vous avez des muscles qui font comme des anneaux, c'est-à-dire qui vont être circulaires, qui vont faire comme un peu des élastiques, vous voyez, qui seraient mis autour de l'intestin. Et donc c'est comme un élastique, vous allez resserrer petit à petit, ça va contracter l'intestin, si on veut, le long du diamètre, du haut vers le bas, le faire plus étroit. Hein. Et puis, vous avez d'autres muscles qui, eux, vont se mettre en place plus tardivement, qui se mettent dans l'axe long de l'intestin. Et eux, ils vont être responsables de contraction de l'avant vers l'arrière. Cette contraction, elle est spontanée, si on peut dire. Elle ne dépend pas des nerfs. C'est-à-dire que ces neurones qui recouvrent l'intestin ne vont pas contrôler, ils ne sont même pas actifs au départ. Donc, vous avez votre intestin chez l'embryon qui va se contracter, indépendamment en fait d'une activité nerveuse. Là en fait, c'est un peu comme le muscle cardiaque initialement, c'est la même chose ici au niveau de l'intestin, vos premiers muscles qui se mettent en place vont se contracter. Donc c'est ce qui montre là, vous avez cette première phase dans le développement où il y a cette contraction qui est indépendante des nerfs.
Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde les embryons, c'est que l'on sait que les couches de cellules se différencient à des stades très différentes. C'est-à-dire les premiers muscles, c'est à 6 jours, les cellules qui vont rythmer les muscles, c'est à 10 jours, et les nerfs, c'est à 16. En regardant la dynamique de l'intestin à ces différents stades, on va voir très clairement quelle est la différence et quel est l'apport de chacun à la dynamique d'ensemble, et ce plus clairement encore que si on regardait un intestin adulte. Dans un premier temps donc, les deux couches de muscles se contractent de manière désordonnée, et c'est dans un second temps, au 16e jour, que les nerfs viennent comme une couche de contrôle pour orienter et réguler ces mouvements spontanés. C'est la découverte de cette étude. Le système nerveux intestinal coordonne et synchronise ces deux muscles. Nicolas Chevalier est chargé de recherche CNRS et travaille au laboratoire matière et systèmes complexes. Il a dirigé cette étude.
Les neurones vont s'activer pour coordonner les deux couches. En fait, on a trouvé que ils établissent un couplage. C'est-à-dire que quand l'une des couches va être contractée, en l'occurrence la couche longitudinale, ça déforme mécaniquement les neurones. Les neurones sont sensibles à ces déformations mécaniques et leur réaction automatique, c'est de sécréter un neurotransmetteur, l'oxyde nitrique, qui va relaxer l'autre couche musculaire, le muscle circulaire. Voilà, via ce couplage, je dirais, mécano-chimique, on obtient finalement une coordination des deux couches musculaires qui fait que quand l'une se contracte, l'autre est relaxée. C'est cet aspect de synchronisation des deux couches et finalement le fait que en réalisant un couplage entre les deux types de muscles, ça fait apparaître un nouveau type de mouvement. Je dirais que ce concept-là est nouveau ou en tout cas qu'on l'avait pas compris à partir des études précédentes. On commence à pouvoir décrire un premier mouvement digestif qu'on voit chez l'adulte. Donc il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, je dirais, dans cette transition de l'embryon au mouvement adulte. Ensuite, je dirais que c'est une approche qui est assez générale, donc on peut l'appliquer à plein d'autres organes, aux poumons, au cœur, aux reins. Donc c'est tout le domaine de la physiologie du développement qui est en partie développé, et puis en partie il y a des grands trous, je dirais, et il y a probablement plein de choses à découvrir qui nous permettront de mieux comprendre comment fonctionnent les organes.
En bref, un mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, des associations redoutent un risque d'intoxication au plomb, Natacha.
Pendant l'incendie, le plomb de la flèche et de la toiture ont fondu. En tout, 350 tonnes de plomb se sont disséminées en poussière autour du monument. L'Agence régionale de santé a confirmé la présence de plomb aux alentours de la cathédrale. Pas de risque en matière de qualité de l'air. En revanche, les concentrations dans les sols du parvis sont élevées. On compte entre 10 à 20 grammes de plomb par kilogramme de sol. Le seuil d'alerte sanitaire est à 0,3 grammes par kilo, donc c'est 65 fois plus que la norme. Le plomb est cancérogène et mutagène, donc des associations demandent un protocole de décontamination, ainsi que la mise en place d'un suivi pour les riverains, pour ceux qui sont intervenus sur le site et pour ceux qui vont intervenir sur le chantier de la cathédrale.
Et on poursuit ce journal avec le deuxième sujet cette semaine. Une étude publiée dans la revue Cell montre comment au cours des 5 derniers millénaires, l'ADN du cheval a été modifié par la domestication de l'homme.
C'est un travail de recherche sur 5 ans qui a mobilisé 120 chercheurs et c'est un bel exemple de recherche pluridisciplinaire qui allie génétique, histoire et archéologie. Ils ont cherché à comprendre l'impact de l'homme sur les mécanismes biologiques liés à la domestication. Ils ont séquencé les génomes de 278 fossiles de chevaux. Il faut imaginer qu'un génome, c'est environ 2,5 milliards de lettres à CGT, donc c'est un jeu de données colossal. À ce jour, c'est la plus grande collection de génomes jamais produite pour une espèce animale. Alors, la première grande leçon de ce travail, c'est de découvrir que le monde du cheval était bien plus divers qu'il ne l'est aujourd'hui, qu'il existait plusieurs formes de chevaux. Les chercheurs ont découvert des lignées qui ont depuis disparu. Quand l'homme a commencé à domestiquer cet animal il y a 5000 ans, il a fait des choix. Il n'a pas utilisé toutes les lignées disponibles et cela a eu un impact sur l'évolution et sur la génétique de l'espèce. De plus, l'étude montre que ces 200 dernières années, on observe un effondrement de la diversité génétique du cheval. Ludovic Orlando est directeur de recherche CNRS de l'Université de Toulouse, au laboratoire d'anthropologie moléculaire. Il est le principal auteur de cette étude.
La grande surprise, c'est de découvrir qu'en réalité, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la plupart des lignées étaient encore disponibles, mais que depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, alors que l'éleveur a changé ses pratiques d'élevage pour reproduire des chevaux en consanguinité et ainsi faire apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui des variétés, le cheval de course, ou anglais par exemple, ou le trotteur français, ou le poney islandais par exemple. Eh bien, en faisant cette nouvelle pratique d'élevage, l'homme a causé une perte massive de la diversité génétique des chevaux qui existait pourtant jusqu'au XVIIe siècle. On la quantifie, nous, dans notre jeu de données, pour être une perte de diversité d'environ 16%. C'est donc vraisemblablement le signe que l'éleveur a changé de fusil d'épaule et a plutôt favorisé la sélection de quelques-uns privilégiés, si vous voulez. Ça, c'est assez bien connu dans les livres d'histoire, puisqu'on sait que depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, l'éleveur a procédé par des croisements de consanguinité et surtout la sélection de quelques étalons ou de quelques juments qui portaient des caractères dits d'intérêt. Par exemple, pour les éleveurs qui voulaient aboutir à un cheval de plus en plus rapide, eh bien des caractères de vitesse, par exemple. Et pour des éleveurs voulant aboutir à des chevaux de plus en plus grands, tels que le percheron, par exemple, eh bien plutôt des reproducteurs qui avaient naturellement une grande taille. Et ainsi, de fil en aiguille, en ne faisant se reproduire entre eux que toujours les mêmes, en fin de compte, dans une même généalogie, cela a conduit à une érosion de la diversité.
En bref, l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia est bloqué en Chine, quelle que soit la langue.
Depuis 2015, Wikipédia était déjà censuré en mandarin. Désormais, c'est l'intégralité du site qui est inaccessible pour les internautes chinois. L'encyclopédie en ligne rejoint donc la longue liste des plateformes web interdites en Chine, Google, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.
Une nouvelle colle biologique a été inventée, une colle capable de recoller une blessure au cœur alors que le cœur est encore en train de battre.
Et le tout en 20 secondes, c'est une solution hydrogel non toxique qui s'active par des rayons ultraviolets et ces résultats ont été obtenus sur des organes de porc et ils sont supérieurs aux résultats des colles chirurgicales actuelles. Ce nouveau prototype peut par exemple supporter une plus forte pression artérielle. Des tests cliniques sur l'humain sont prévus.
La 6e édition du festival Pint of Science commence lundi prochain dans toute la France.
Dans 53 villes et pendant 3 soirs, des rencontres sont organisées dans les bars avec plus de 800 scientifiques, avec notamment cette année la climatologue Valérie Masson-Delmotte. En tout, 400 événements sont prévus autour des récentes découvertes des chercheurs. Les inscriptions se font sur pintofscience.fr.
On vous met le lien évidemment, comme toujours, sur le Twitter, le fil Twitter de la méthode scientifique, @laméthodefc. Pour conclure, Natacha, comme toutes les semaines par notre rubrique de science improbable, selon une étude anglaise, l'utilisation des smartphones modifie la physionomie de nos doigts.
5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre. C'est les résultats de cette enquête réalisée auprès de 2000 personnes. Le pouce peut devenir jusqu'à 15% plus gros. Ce sont surtout les plus jeunes qui sont touchés par ces mutations. En une seule décennie, c'est une évolution très rapide, mais l'étude rappelle que nous passons en moyenne 2 heures par jour sur nos téléphones. Nos pouces deviennent donc plus musclés. Et je vous ai vu, vous êtes tous en train de comparer la taille de vos doigts.
Absolument, pas du tout. Mes doigts sont tout à fait de la bonne taille. Je ne sais pas ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup Natacha, à la semaine prochaine.